Aujourd'hui dans Biologica Radiophonicus, nous préparons la Saint-Valentin pendant ce grand direct de Transistor. Et pour cela, nous allons parler de l'alpha et de l'oméga de la biologie. Je veux bien sûr parler...
du sexe.
Eh oui, la reproduction sexuée sans laquelle vous ne seriez pas là. C'est un processus très répandu dans le monde du vivant, mais qui pourtant n'est pas la seule solution pour se reproduire. Mais pourquoi se reproduire ?
Nous ne sommes pas éternels, et une des caractéristiques du vivant, c'est qu'il arrive à s'auto-entretenir et à se perpétuer.
Et pour cela, les solutions sont diverses et variées. Je vous avais déjà parlé de la méduse immortelle, mais ça reste un cas extrême. La plupart du temps, il y a reproduction, qu'elle soit sexuée ou non. Nos amis, les bactéries, par exemple, se reproduisent par simple division. C'est une des reproductions asexuées. Il est à noter que les plantes aussi sont capables de se reproduire sans partenaire, par autofécondation, et que certains animaux se reproduisent également sans avoir besoin de partenaire.
Alors nous allons, pour commencer, nous focaliser principalement sur les animaux. La plupart d'entre eux, comme l'homme, sont composés d'individus de deux sexes différents, mâle et femelle. La principale marque du sexe se voit au chromosome sexuel. Rappelons pour ceux qui n'osent pas le demander ce qu'est un chromosome. C'est une molécule d'ADN qui porte notre information génétique, liée à de très nombreuses protéines, et ils existent par paires en ce qui nous concerne. Il ressemble assez à un spaghetti flasque, sauf quand la cellule qui le possède se divise. Il est alors compacté 10 000 fois, comme lorsque vous tordez un torchon. Ces chromosomes sont de deux types, les autosomes, 22 paires, sans différence entre les sexes, et les chromosomes sexuels, une paire. Vous connaissez très probablement le nom qu'on leur donne, n'est-ce pas ?
Je pense que c'est X et Y.
C'est une bonne réponse, mais que dans le cas de certains organismes. Sinon, ce serait trop simple, bien sûr. Chez l'homme comme chez les mammifères, pour chaque paire, on a un chromosome hérité de son papa et un chromosome hérité de sa maman, pour un total de 46 chromosomes. Mais n'allez pas croire que c'est une règle fixe dans la nature. Par exemple, on a trouvé une espèce de fougère qui avait 1240 chromosomes. Quand il n'y a pas d'anomalie génétique, une femme possède deux chromosomes X et un homme possède un chromosome X et un chromosome Y. Alors, comment passe-t-on du type et du nombre de chromosomes à l'apparence finale de l'individu ? Ça dépend des organismes qu'on étudie, là encore. Le système le plus étudié, c'est bien entendu l'homme avec le gène SRY. Il code pour une protéine appelée TDF qui est à la base de la différenciation sexuelle. En effet, cette protéine va se positionner sur l'ADN et activer la transcription de certains gènes que chez les hommes, ceux qui sont nécessaires pour former des spermatozoïdes par exemple. Vous conviendrez que ces gènes sont moins utiles pour vous, mesdames. Et oui, dans l'ADN, tous nos gènes ne sont pas lus et la régulation de leur expression est quelque chose d'essentiel. Vous imaginez par exemple pour ce cas les conséquences d'une mauvaise régulation de l'activation ou de la répression du gène de formation des testicules. Bref, notre protéine TDF, codée par le gène SRY du chromosome Y, va notamment permettre leur développement. De ce fait, tant que le gène SRY n'est pas exprimé lors du développement embryonnaire, nous avons tous une identité féminine, ce qui dure pendant les 7 premières semaines du développement. Cependant, plusieurs études laissent supposer que des gènes propres à l'identité féminine s'activent aussi ensuite chez les femmes. L'identité féminine n'est pas une identité par défaut. En petit compliment, si les filles ont deux chromosomes X, un seul est véritablement utilisé pendant la vie de l'individu. Le deuxième est réduit au silence, ces gènes ne sont pas exprimés et cela dépend des cellules. Ainsi, si vous avez une chatte calico, ce phénomène est responsable de sa couleur de robe. Ce qui se passe ensuite dans les cellules de la reproduction, appelées gamètes, c'est qu'on va avoir qu'un seul chromosome pour chaque paire. Ainsi, le père pourra transmettre soit un X, soit un Y, tandis que la mère transmettra obligatoirement un X. Mais ce n'est pas aussi simple pour tout le monde, là encore. En particulier, l'ornithorynque, qui a des glandes de poison au niveau des chevilles et est une des 4 seules espèces de mammifères à pondre des œufs. Badass, hein ? Il possède 5 paires de chromosomes sexuels X ou Y. Du coup, ça complique un peu le truc. Et les scientifiques galèrent encore pour comprendre comment ça marche. Au passage, pour nos amis lettreux, tout le monde sait comment ça s'écrit, ornithorynque.
Roulement de tambour, O-R-N-I-T-H-O-R-Y-N-Q-U-E. Et puis, chez certaines espèces, le système XY, c'est complètement has-been. Par exemple, les oiseaux sont passés à la mode WZ. Cette fois, c'est le mâle qui a deux fois le même chromosome, il est donc ZZ, tandis que les femelles ont deux chromosomes différents, elles sont WZ.
Vous en voulez d'autres ? Chez nos amis les sauterelles et les cafards, on a adopté le système XO. Là encore, ce n'est pas compliqué à comprendre. Les mâles ont un seul chromosome X, tandis que les femelles en ont deux. Ce phénomène serait apparu suite à la perte du chromosome Y dans ces espèces. D'ailleurs, en ce qui nous concerne, notre chromosome Y est ridicule par rapport au X, et il a fondu en taille au cours de l'évolution. On pense que lui et le X sont issus d'un même chromosome qui s'est dupliqué il y a 300 millions d'années, le X acquérant ainsi au fur et à mesure des gènes nécessaires aux deux sexes et au sexe féminin, tandis que le Y, lui, n'a conservé que les gènes pour le sexe masculin et en perdant d'autres. Pour finir, parfois le sexe ne dépend même pas des chromosomes. Chez les crocodiles et la majorité des tortues, le sexe du nouveau-né est déterminé par la température au cours du développement embryonnaire. Oui, j'ai bien dit la température. Imaginez s'il y avait une forte période de canicule et que quelques mois plus tard, tous les bébés dans la maternité étaient des filles. Ou l'inverse. En bref, le sexe peut être déterminé par plein de trucs différents. Et on ne peut pas généraliser le coup du XY à tous les êtres vivants que vous voyez. Revenons à nos amis les humains. La femme produit ses cellules reproductrices avant même d'être née. Oui, mesdames, vous aviez votre stock d'ovules, dormant certes, dès votre naissance. Pour les messieurs, la machine à produire des spermatozoïdes démarre à la puberté et ne s'arrête plus jamais ensuite. Dans tous les cas, on part d'une cellule qui a tous ses chromosomes que l'on appelle une cellule germinale, qui réplique tout son ADN, qui est ensuite séparée en quatre lots, dans quatre cellules filles pendant une double division appelée méiose. Chacune de ces cellules, qui va donner un gamète, sauf chez les femmes, où une seule survit à la fin sur les quatre, a ainsi qu'un seul chromosome par paire et non deux. Appelons ainsi les deux chromosomes d'une paire A et B. Chaque gamète contiendra normalement un seul de ces chromosomes, soit une chance sur deux d'obtenir A ou une chance sur deux d'obtenir B. On répète 23 fois ce processus pour un être humain, pour chaque paire de chromosomes différentes. Du coup, ça nous fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, 23 fois. C'est-à-dire environ 8 388 608 gamètes différents. On est 7 milliards sur Terre et pourtant les jumeaux sont rares. Il y a un problème, vous allez me dire.
Ouais, mais pendant la reproduction, chaque parent apporte un gamète. Du coup, si je fais 8 388 606 fois 8 380 608, ça fait, oui je me suis trompé de chiffre, 7,05 fois 10 puissance 13, c'est-à-dire 1 7 avec 13 0 derrière.
Et c'est pas encore assez. Au début de la méiose, les chromosomes ressemblent un peu à un bol de spaghetti. Il arrive donc qu'un bout du chromosome ayant jambé un autre bout du chromosome de la même paire, ou d'une paire différente, mais dans ce cas, ça cause pas mal de soucis. Alors, comme on n'est pas compliqué en biologie, jurez, on a appelé ça enjambement, ou crossing over pour les intimes. Bon, là, vous imaginez que les spaghettis se cassent un peu dans tous les sens, que les bouts de spaghettis passent d'un spaghetti à l'autre, bref, tout se mélange à plein d'endroits différents. Au final, chaque fois qu'il y a un crossing over, et c'est très courant, on obtient deux nouveaux chromosomes totalement inédits. Donc en fait, notre 7 avec les 13 zéros derrière, bah en fait, c'est que dalle. Vous avez plus de chances de gagner 3 fois de suite le super jackpot du loto que de trouver une personne identique avec qui vous n'avez aucun lien génétique de parenté. Vu le nombre astronomique de combinaisons différentes possibles lorsque les deux gamètes mâles et femelles sont formés et fusionnent.
Tout ça, c'est bien beau, mais il faut quand même que les partenaires se rencontrent. Parce que l'amour à distance, je pense qu'il n'y a que l'homme qui arrive à le faire.
Avec plus ou moins de succès, d'ailleurs.
Quoique, certains animaux, comme la moule, vont émettre leurs cellules reproductrices dans l'océan, et elles se rencontrent d'elles-mêmes, par le jeu de phéromones. Cependant, il y a quand même une libération synchrone de ces cellules, calée avec la marée. Mais encore une fois, les exemples restent variables en biologie. Comme je l'ai dit précédemment, une grande partie des animaux utilisent des phéromones pour faciliter les rencontres entre mâles et femelles. Petit aparté, mais je voulais préciser qu'il n'est cependant toujours pas facile de distinguer mâles et femelles pour certaines espèces, par exemple pour les mésanges bleus ou les étourneaux. Et au contraire, il peut y avoir une différence de morphologie très importante entre le mâle et la femelle. On appelle cela le dysmorphisme sexuel. C'est d'ailleurs ça qui a conduit Linné, un grand naturaliste, à faussement classer le mâle et la femelle du canard colvert dans deux espèces différentes. Durant la saison des amours, pour la majorité des animaux, on peut assister à une parade nuptiale une fois que le mâle et la femelle se sont rencontrés. Souvent, l'enjeu est pour le mâle, il doit prouver à la femelle qu'il est en bonne santé et meilleur que les autres, et qu'ainsi il léguera ses bons gènes à la descendance, qui aura donc à son tour une plus forte probabilité de se reproduire, et ainsi de suite. C'est donc généralement la femelle qui réalise le choix, car c'est elle qui dépensera le plus d'énergie suite à cette reproduction avec la gestation. C'est parti pour les exemples, on commence avec la facilité, j'ai nommé le cerf. Pour prouver à leurs bien-aimés qu'ils sont les plus forts, les cerfs se battent entre eux de septembre à octobre, et seul le gagnant aura le droit de se reproduire. Et c'est là que l'on comprend que la nature ne favorise pas forcément le maintien de la population, car de nombreux cerfs mourront, tristement, à cause de leurs blessures, mais en contrepartie, seuls les individus les plus robustes, tout va bien, auront une descendance. C'est le principe de l'évolution et de la sélection naturelle. On reste avec les gros mammifères et on va voir nos amis les lions. J'ai choisi cet exemple non pas pour sa parade nuptiale, mais plutôt pour que vous compreniez les lois cruelles de la nature. Si vous avez suivi ce que je viens de dire, le but pour les mâles va être de privilégier sa descendance par rapport à celle des autres mâles. Et du coup, le lion a mis une stratégie efficace mais radicale. Dès qu'un nouveau mâle dominant arrive dans le troupeau, il va simplement tuer tous les lionceaux qui ne sont pas les siens. C'est cruel, mais terriblement malin pour ne transmettre que ses gènes à la future population. Pensez-y la prochaine fois que vous voyez le roi lion et que vous ne comprenez pas pourquoi Scar il a un peu la haine envers Simba.
D'ailleurs, cela veut dire que tous les lionceaux ont le même père. Donc Simba et Nala dans le roi lion, bah, y a un peu d'inceste dans l'air. Navré, les léobiologistes semblent vouloir détruire votre vision innocente de la nature.
Hashtag Dirty Biology. On va repartir sur des choses un peu plus mignonnes avec les cadeaux nuptiaux. Afin de favoriser la santé de la femelle et de la mettre de bonne humeur, certains animaux vont offrir une petite collation à la femelle. Mais certains mâles sont un peu trompeurs. Et on a observé une espèce d'araignée, also known as la pisore admirable, qui de temps en temps n'offrait à la femelle qu'un emballage de toile vide. La femelle, ne s'apercevant généralement de la supercherie que trop tard, elle a généralement des rapports assez courts, mais rapports quand même. Et le dernier petit exemple, parce que je n'ai pas pu résister, c'est celui du fou à pieds bleus. C'est une espèce d'oiseau que l'on retrouve notamment aux Galapagos. Ces volatiles, sacrément malins, ont développé une technique intéressante pour prouver leur potentiel reproductif. Pour cela, ils montrent leurs pieds à la femelle. En plus du fétichisme qui leur tient à cœur et à moi aussi, ils utilisent cette information afin d'avoir des réponses sur la caractéristique du système immunitaire de l'individu qui est dépendant de ces pigments bleus et qui permet aussi de renseigner sur l'âge du mâle. Du coup, les pigments bleus impliqués dans la couleur du pied participent également aux défenses immunitaires et permettent à la femelle de choisir son mâle.
De ce fait, la femelle du fou à pied bleu est capable de sélectionner un individu jeune et qui résistera bien aux maladies.
Donc oui, le fétichisme a sa place dans la survie d'une espèce. Dans un autre registre, une étude publiée par l'université de Cambridge a estimé qu'environ 9% des mammifères étaient monogames. Ce phénomène va à l'encontre de ce que l'on pourrait penser de prime abord. Quel est l'avantage du mâle à ne pas multiplier ses descendants s'il ne compte qu'une seule semelle ? L'hypothèse privilégiée serait la protection de la femelle et non de la semelle. Parce que oui, pour que l'individu ait des descendants, il faut que la femelle aille jusqu'à la fin de sa gestation. Certains mâles vont donc choisir de s'occuper de leur femelle afin de s'assurer de la viabilité de sa descendance. La polygamie va donc être défavorisée si les femelles sont territoriales. En restant proche de sa descendance, le mâle va lui inculquer des comportements à adopter, ce qui va favoriser la survie de ses enfants et, in fine, augmenter la probabilité qu'ils arrivent jusqu'à la maturité sexuelle. Pour plus d'informations, je vous invite à lire le journal Science paru en 2013 et qui est l'un des trois journaux les plus sexy en biologie.
Et nous arrivons déjà à la fin du numéro. J'espère que vous passerez tous une bonne Saint-Valentin. De toute façon, c'est commercial et on est en hiver. C'est pas la période de reproduction, donc faites pas de folie.
Je vous souhaite beaucoup d'amour et de tendresse. N'oubliez pas non plus la zoophilie, c'est important.
Le biologiste écologue, un être de finesse.
J'aime le trash. Sur ces mots doux, à vous les studios.
Et des mots très doux et pleins d'amour, n'est-ce pas ?
Oui.
Alors il est temps de refermer Biologica Radiophonicus. Merci beaucoup, Léo et Baptiste.
Bisous à toutes les semelles.
Bisous à toutes les semelles. Dans un quart d'heure, retrouvez Parce qu'ils le valent bien, émission qui reçoit aujourd'hui Sylvie Martin, vice-présidente chargée des études à l'ENS. Mais avant, parlons cinéma avec Rémi et son équipe pour D'étoiles plein les yeux.